Bonsoir à chacun. C'est toujours une joie de vous retrouver en fin de journée pour avancer pas à pas vers cette célébration de l'Immaculée Conception. Alors nous avons choisi le thème des sacrements puisque nous en vivons, nous essayons d'en vivre jour après jour grâce à ce don immense que le Christ nous a fait en nous donnant sa vie. Alors hier précisément, on a abordé un tout petit peu, très humblement, très modestement, ce mystère magnifique de l'Eucharistie. Le Christ qui donne sa vie, qui se rend réellement présent à travers les espèces du pain et du vin. On a essayé de voir ensemble ce que voulait dire le pain, le vin. On pourrait résumer comme étant notre quotidien. Comment est-ce que le Christ nous rejoint dans notre quotidien et au cœur de notre être, puisqu'il se rend présent à travers ces éléments issus de la création, qui sont le fruit de notre travail, à travers lequel on s'offre, c'est parce qu'on s'offre qu'il vient nous rejoindre dans cette offrande, et c'est parce que lui s'est offert qu'on peut s'offrir à notre tour. On ne se rend jamais assez compte de l'acte profond qu'est celui de Jésus et l'espace de vie, d'amour et de liberté qu'il nous offre à travers cet acte. Alors, à la sortie, hier, j'ai croisé un paroissien qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a la séparation des espèces ? Pourquoi est-ce que d'une part, il y a le pain, on dit « Ceci est mon corps », et puis le vin, on dit « Ceci est mon sang ». Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour parler du sacrifice, j'avais fait référence à Noé, le renouvellement de l'alliance avec Noé, où Dieu dit « Soyez féconds, dominez », et puis il y a une clause où il dit « vous pouvez manger de la viande, mais je vous demande de faire saigner l'animal », ça veut dire de séparer la chair du sang. Donc vous ne pouvez pas manger le sang parce que le sang est principe de vie. Et je vous avais dit à ce moment-là, ça c'est typique de la pédagogie divine. En fait, face à notre cœur endurci suite au péché, face aux pulsions de mort qui nous habitent, ça je pense que c'est vrai pour tout le monde, de temps en temps on a envie d'étrangler son frère et sa sœur, surtout quand on est fatigué, etc. Donc on n'est pas perpétuellement dans l'action de grâce, et bien par rapport à ce mal qui peut habiter notre cœur, par rapport à ces déviances de notre humanité, le Seigneur nous offre un cadre assez intéressant, un espace où il dit réapprenez ce qu'est la valeur de la vie. À la place de tuer votre frère, vaut mieux tuer l'animal, et puis en voyant son sang, voyez bien ce que vous faites quand même, à travers vos pulsions de mort. On avait aussi repris les psaumes pour bien montrer à quel point dans la prière il y avait cette dimension d'offrande. Lorsque je dis « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque je dis « Mais Seigneur, viens à notre secours », on voit bien que ce sont des appels qui traversent notre humanité, qui ont tout à fait lieu d'être, mais qui sont appelés, grâce au Christ, à être offerts en lui. Et c'est le sens, en fait, de pouvoir exprimer tout cela en dialogue avec Dieu. Lorsque on exprime tout cela en dialogue avec Dieu, eh bien, on transfigure nos souffrances, nos manques, toutes nos passions en fait en action de grâce puisqu'on est en dialogue avec lui. Je reviens sur la séparation des espèces, le fait que il y ait d'une part le corps du Christ et le sang, ça nous ramène à cette séparation de la chair et du sang qui avait été voulu, qui s'est prolongée dans le temple à travers les sacrifices. Et donc c'est vraiment la dimension sacrificielle quand on sépare la chair et le sang. Eh bien, c'est la mort qui est signifiée. Donc, la séparation des espèces nous permet de remémorer le sacrifice de Jésus. Il vient nous sauver du péché originel et des conséquences du péché qui vient embrouiller notre vie, qui vient nous embarrasser, qui vient alourdir. Et donc, vous voyez, plus profondément, c'est ça qui est magnifique, plus profondément que de se laisser mettre à mort, il donne sa vie. Et c'est ça qui change tout. Plus profondément que de se laisser mettre à mort, il donne sa vie. Donc tout ce que nous avons comme pulsion de mort dans le sacrifice de Jésus, se trouve transfiguré par son amour et par cet acte qu'il fait du don de sa vie. Donc la séparation des espèces, c'est cela que cela nous rappelle, le sacrifice. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, ne se rend pas à moitié présent dans l'un et dans l'autre. En fait, il se rend pleinement présent dans l'un et dans l'autre, pour nous rappeler que plus profondément que le sacrifice, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il demeure avec nous. Donc nous nous offrons, avec tout ce que nous avons en termes de manque, de faiblesse, de péché, etc. Et lui, il vient nous accorder au don de sa vie. Ça, c'est le sens profond de la messe. Et comme je l'avais rappelé hier, il y a toutes les étapes, en fait, de la messe qui nous y conduisent. Et donc la question, à chaque fois qu'il est bon de se poser, c'est: est-ce que j'assiste à la messe ou est-ce que je célèbre vraiment l'Eucharistie ? Voilà ce qu'on avait approfondi hier. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris l'Eucharistie avant le baptême ? Parce que là, je vois les catéchumènes qui sont présents, et c'est beau d'être porté par la présence et l'écoute de ces catéchumènes, de ceux qui portent en eux le désir d'être baptisés. Parce que, comme le dit un humoriste français, la plupart d'entre nous, on est des catholiques d'élevage. Est-ce que vous savez que ce sont des catholiques d'élevage ? Ce sont ceux qui sont baptisés et qui sont nés dedans et qui se rendent plus compte de la grâce dont ils ont reçu. Mais je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que le baptême, pourquoi est-ce qu'on parle du baptême après l'Eucharistie ? Parce que c'est le don que Jésus a fait de sa vie, sa mort et sa résurrection qui vient éclairer le baptême. C'est parce qu'il est mort et ressuscité qu'on est plongé par le baptême dans sa mort et dans sa résurrection. C'est par son Eucharistie, par le don qu'il nous fait de sa vie, que le soir, la nuit de Pâques, vous allez être baptisé dans sa mort, mais plus profondément dans sa vie, pour vivre de la vie éternelle. Donc c'est la raison pour laquelle on aborde le baptême après l'Eucharistie. Alors quand on parle du baptême, il est bon de se rappeler le baptême de Jésus. Il est quand même étonnant que Jésus ait été baptisé. Vous ne trouvez pas ? Si le baptême est là pour nous sauver du péché originel et puis de tout notre péché, enfin de tous nos péchés, pourquoi est-ce que Jésus est baptisé ? Pourquoi est-ce que lorsqu'il rencontre Jean-Baptiste qui a les pieds dans le Jourdain, qui est en train de baptiser, alors c'est le baptême propre à l'Ancien Testament, c'est un baptême de conversion, on est bien d'accord, donc l'eau déjà avait une symbolique de purification. Donc voilà, le peuple juif pratiquait ce type de rite, surtout auprès des Esséniens, parce que probablement que Jean-Baptiste était un Essénien, ça veut dire que voilà, il vivait dans le désert et il travaillait beaucoup sur sa propre conversion pour y introduire les autres. Et donc il est là au Jourdain et il baptise ceux qui veulent entrer dans cette conversion, parce qu'on n'a jamais fini de se convertir. Est-ce que Jésus a besoin de se convertir ? C'est une vraie question. Alors qu'est-ce qui se passe ? Jésus s'approche de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le reconnaît, c'est son cousin. Donc il reconnaît que c'est Jésus son cousin, mais que ce cousin est aussi le Christ, le Fils de Dieu. Il dit mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt toi qui devrais me baptiser. Et Jésus lui répond de façon assez étonnante à travers cette phrase: laisse faire pour que la justice soit accomplie. Laisse faire. Que fait Jésus quand il se laisse baptiser par Jean-Baptiste ? Donc je vous ai dit que le baptême, déjà à l'époque, nous entraînait dans une démarche de conversion. Voilà, je veux être lavé de mes fautes, et donc je veux retrouver un peu le sens de la vie pour la faire grandir à travers tout ce que je suis. Ça, c'était le sens du baptême. Et Jésus est baptisé parce qu'en fait, la source de toute conversion, la source de vie est en lui. Et donc quand il dit pour que toute justice soit accomplie, nous, on va se faire baptiser, enfin en tout cas le peuple juif va se faire baptiser pour retrouver un certain sens de la justice, et lui, il entre dans ce baptême parce qu'il est la source de toute justification. En se laissant baptiser, il se fait solidaire de notre humanité. Il nous montre à quel point il n'est pas là simplement pour nous faire la morale ou pour nous faire la leçon. Il est là pour nous aimer jusqu'au bout. Ça veut dire nous aimer plus profondément que nos manquements, que nos fautes, que notre péché. Et donc, quand il entre dans ce geste de baptême, c'est cela qu'il manifeste. Alors, il y a plusieurs passages dans l'Évangile qui peuvent nous rappeler cela. Vous savez, quand Jésus porte sa croix, il tombe. Et on sait bien que le péché nous fait tomber. Et lorsque Jésus tombe, ça nous rappelle à quel point, même lorsque l'on tombe, en fait, Jésus nous a déjà rejoint. Il tombe sous le poids de notre péché, il tombe sous le poids de la mort, mais il porte tout ce qui nous fait souffrir par amour pour nous. Donc quand il tombe plus profondément que lorsque nous tombons pour nous relever. Quand il est baptisé, il nous rejoint au principe même de notre désir de conversion pour que cette conversion ne soit pas simplement un essai de conversion, mais pour que ce soit une conversion infiniment profonde. Parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous aime, qui nous dit « écoute, change un peu d'attitude ». C'est Jésus qui nous aime, qui est fils de Dieu, et qui, parce qu'il est fils de Dieu, vient nous donner ce don de la vie éternelle qui nous permet de changer d'attitude en vérité, en esprit et en vérité. Pas seulement de façon superficielle, mais de façon infiniment profonde. Vous savez, le baptême touche notre être. Le baptême touche notre être. C'est une transfiguration. On le voit, hein, quand les catéchumènes sont baptisés, ça se voit à travers leur regard, à travers leur visage. Il y a quelque chose de magnifique. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de magnifique pour toute la communauté. Parce que la grâce dont ils bénéficient, eh bien, on en est tous bénéficiaires. C'est comme si toute l'Église était renouvelée grâce à leur baptême. Et donc, il y a là un motif de joie très profond. Alors je reviens, parce que c'est toujours bon d'essayer de réfléchir sur les symboles. Pourquoi est-ce qu'on est plongé dans l'eau ? Pourquoi est-ce qu'on est plongé dans l'eau ? Quelle est la symbolique de l'eau ? Vous savez, si vous regardez un peu la Bible, l'eau c'est à la fois la vie, la vie elle jaillit de l'eau, on voit comment on a besoin, on a absolument besoin de boire. On peut se passer de manger pendant plusieurs jours, voire même que voilà, certainement même, enfin voilà, pour ceux qui le peuvent, quelques semaines, mais on peut pas se passer de boire. L'eau, c'est la vie. Mais on sait aussi, et le déluge manifeste cela, on sait aussi que l'eau, c'est la mort. Quand on voit un tsunami, on voit à quel point, quand on voit des tempêtes et des grosses vagues, on se dit, oh là là, là, il y a le vent des globes, et on se dit, on voit ce combat des marins à la fois par rapport à la mort et à la vie, en fait. C'est assez intéressant de voir ça. Donc, l'eau n'est pas choisie pour rien. Donc, c'est à la fois symbole de mort et symbole de vie. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que le baptême, les tout premiers baptêmes, et puis aujourd'hui, il y a quelques communautés qui vivent ça, c'était d'une plongée totale dans l'eau. Vous étiez plongé totalement dans un grand baptistère. Il y a parfois encore des églises qui ont ces grands baptistères. Donc, la personne est plongée totalement et elle ressort de là totalement. Quand Jésus plonge totalement et qu'il ressort dans l'Évangile, on entend la voix du Père, il y a l'Esprit Saint qui vient reposer sur lui, puis on entend la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis mon amour et en qui je mets ma joie. » Ça dépend des Évangiles, parfois c'est amour, faveur ou joie, c'est assez beau. Donc, quand nous sommes baptisés, évidemment, on est plongé dans cette eau, mais je trouve que le geste d'être plongé entièrement, il est assez fort. Imaginez la maman qui demande à ce que son petit soit baptisé, son petit de 8 jours, de 15 jours, de 3 semaines, et puis il y a le prêtre qui prend le petit et qui le plonge. Alors, heureusement, la nature, elle est bien faite, parce que les tout-petits, ils ont un réflexe. Et c'est-à-dire qu'ils ne vont pas boire l'eau, en fait. Donc, ils vont être plongés dans l'eau. Mais c'est assez impressionnant pour une maman de voir son enfant plongé dans l'eau. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? On sent bien quand même qu'il y a un rapport de mort et de vie qui est très perceptible dans ce geste du baptême. Et pourquoi c'est si important ? Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, dans ce rapport de mort et de vie ? En fait, quand des parents baptisent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils disent ? qu'est-ce qu'il confesse? Il confesse, oui, c'est mon enfant. Voilà le nom que nous avons choisi le dimanche. Il y a les jeunes parents qui arrivent avec leur... Et puis le père Antoine qui demande de présenter l'enfant et de nous dire le nom qui a été choisi avant qu'il soit baptisé. Donc ils choisissent le nom. Mais le baptême les invite à quoi? À confesser que leur enfant issu de leur chair, leur enfant qu'ils aiment, plus profondément est enfant de Dieu. Et ça change tout. Parce que mon enfant, pour qui j'ai beaucoup d'espérance, fondamentalement, il est d'abord enfant de Dieu. Et le plus important, c'est qu'il puisse être éduqué dans cette liberté d'enfant de Dieu. C'est qu'il puisse trouver sa vocation, accomplir sa vocation, qui consiste, à la suite de Jésus, de donner sa vie. En fait, c'est ça qui nous rend heureux. On est heureux, on goûte la joie lorsque on a des expériences de don de notre vie. Et donc l'éducation chrétienne à la lumière du baptême, c'est cela, c'est éduquer à la liberté chrétienne, permettre à son enfant de découvrir profondément quelle est sa vocation. Et en fait cette vocation, elle se trouve dans le secret de son cœur. Alors elle apparaîtra plus ou moins bien selon les âges. On voit bien comment parfois les ados, etc., c'est pas toujours si simple. Mais l'éducation chrétienne, c'est avoir confiance en Dieu. Et se dire, dans les moments difficiles, c'est notre enfant, mais c'est le tien aussi, donc il faut que tu t'en occupes. Hein. Et puis aussi, donner à l'enfant l'espace de découvrir ce qu'il est appelé à être. Hein. Notre danger comme parent, voire même comme éducateur, c'est de projeter beaucoup sur nos enfants, inévitablement. Hein. Donc, en fait, le baptême éduque à la liberté. C'est vrai pour les petits-enfants, c'est vrai aussi pour ces catéchumènes qui avancent vers ce baptême pour recevoir la vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont accéder à cette vie que le Christ leur donne. Et la question de fond, c'est comment est-ce qu'ils vont en vivre? Et cette question qu'ils portent aujourd'hui par rapport à ce chemin vers le baptême, eh bien, elle nous rappelle à quel point il ne suffit pas d'être des cathos d'élevage. Il faut être des cathos libres. Est-ce qu'on vit de la liberté des enfants de Dieu? On est tous et toutes très déterminé quand on a parlé du corps, hein, c'est apparu assez clairement. On a un code génétique qu'on n'a pas choisi, on a reçu une éducation qu'on n'a pas, etc. Donc voilà, il y a des choses qui viennent nous influencer réellement et même profondément. Mais plus profondément encore, on est appelé à être des fils et des filles de Dieu. Et comment est-ce qu'on vit de cette vie que Dieu nous donne? Cette vie qui est plus profonde, je l'ai déjà dit, que les impasses, que les souffrances, etc. Comment est-ce qu'on se laisse transfigurer par cette vie? Ça, c'est vraiment le sens du baptême. Alors, pour rejoindre aussi ce cheminement du catéchuménat, c'est vrai que quand on est petit, ce sont les parents, en fait, qui nous portent, qui se disent en fait on veut lui offrir le meilleur de ce qu'on a reçu, donc on va lui offrir cet espace du baptême. Un jeune adulte ou un adulte catéchumène, il y a tout un parcours qui est prévu, il y a tout un chemin pour qu'il puisse librement adhérer au Christ qu'il apprend à connaître et à l'Église en fait qui est le corps de Jésus. Et cette adhésion libre, elle est très importante. Elle est très importante et elle est aussi cet espace où ils peuvent poser des questions en disant, mais attendez, là vous me parlez d'un Messie qui est à la fois homme, qui est à la fois Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous voyez, ces questions de fond que parfois on ne se pose plus. Et donc le chemin catéchuménal est une redécouverte au fond de la liberté d'adhésion. Est-ce que je m'engage par rapport à ce Christ qui a donné sa vie pour moi? Est-ce que je m'engage dans cette communauté qui est son corps et pour partager cette vie que l'on reçoit? Et de ce point de vue-là, c'est toujours une démarche qui m'impressionne beaucoup parce que elle nous remet face au cœur de notre foi. Alors, est-ce que vous savez que le baptême a aussi, en plus de la symbolique de l'eau, une racine dans l'Ancien Testament, hein, 8 jours après la naissance de l'enfant, en particulier les garçons, dans le peuple juif, il y a la circoncision et le don du nom. Il est bon d'essayer de réfléchir sur ce que ça veut dire par rapport au baptême. Et la circoncision est une forme de confession qui consiste à dire la vie que l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre et plus profondément la vie qui vient de Dieu. C'est ça la circoncision. Hein, vous savez, c'est l'organe génital masculin qui est marqué par la circoncision, mais donc c'est bien l'organe à travers lesquels on transmet la vie. Et donc c'est les hommes qui sont circoncis, mais cette circoncision, c'est la circoncision de tout le peuple qui se vit à travers l'amour humain. Donc déjà dans le peuple juif, il y avait cette reconnaissance très profonde que la vie que l'on transmet a une origine plus profonde qui est celle de Dieu. Alors quand on est baptisé, hein, on entre dans l'accomplissement de cette vie hein, qui nous est donnée par la mort et la résurrection de Jésus, et on devient, comme vous le savez peut-être, prêtre, est-ce que vous avez vu ça au catéchuménat ? Prêtre, prophète et roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il est bon de se rappeler ça. Vous savez que par votre baptême, vous êtes prêtre, prophète et roi. Alors vous êtes prêtre différemment, un peu différemment que le père Antoine, qui est prêtre, qui est ministre, mais nous, on participe au sacerdoce commun. Hein. Ce qui est sûr, c'est que lui et nous, on participe à l'unique sacrifice de Jésus. Alors que veut dire être prêtre à partir du baptême, ce qu'on appelle le sacerdoce commun, le sacerdoce du peuple de Dieu? Mais le sacerdoce du peuple de Dieu, c'est ce que j'ai un peu expliqué, c'est d'apprendre à mourir et ressusciter avec Jésus. En fait, c'est ça, c'est recueillir au cœur de notre quotidien cette vie que Dieu nous donne et donc accepter cette vie qui est plus profonde que les épreuves, que les limites, que la souffrance. Ça, c'est le sacerdoce. Le prophétisme, c'est de témoigner de cette vie. Alors, comment est-ce que je témoigne de cette vie au cœur de mon existence et comment est-ce que j'en témoigne à travers la vie d'autrui, hein? Être prophète, le prophète, c'est le garant de l'alliance. Et là, il s'agit d'être garant de cette nouvelle alliance scellée dans le sang, dans la mort, dans la résurrection de Jésus. La royauté, c'est pas simplement de reconnaître cette vie et de la confesser, mais c'est de la faire grandir à travers les réalités qui nous entourent, dans le cadre du travail, dans le cadre de nos relations habituelles, à travers tous nos engagements. Donc on est appelé à être prêtre, prophète et roi. Alors il y a des vocations qui signifient chacune de ces dimensions de façon particulière. Alors vous l'avez compris, le prêtre ordonné au sacerdoce du Christ et donc au sacerdoce commun, signifie de façon toute particulière notre vocation à être prêtre. Si le père Antoine est prêtre, c'est pour vous rappeler à quel point vous êtes prêtre. S'il offre l'Eucharistie, c'est pour vous rappeler à quel point vous êtes appelé à participer à cette offrande et à en vivre. D'accord ? La dimension prophétique qui consiste à annoncer cette vie, elle est signifiée, entre autres, par les consacrés. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent un célibat pour le royaume. À travers le célibat pour le royaume, ils confessent profondément que la vie, c'est d'abord la vie éternelle, puisqu'il y a un renoncement qui est le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, en tout cas physiquement, mais il y a cette confession très profonde que la vie vient de Dieu. Donc c'est la dimension prophétique. Et les laïcs, c'est les spécialistes de la royauté. Hein, vous avez un monde autour de vous, hein, la plupart d'entre vous vivent à Paris ou aux alentours, etc. Comment est-ce qu'on transforme les réalités qui nous environnent, les lieux de nos engagements, en royaume des cieux? La royauté suppose que l'on reçoit toute chose comme venant de Dieu et qu'on fasse fructifier cette vie qui vient de Dieu à travers nos engagements. Vous savez, Jean-Paul II parlait, j'aime beaucoup cette expression qu'il avait tirée de Paul VI, il s'agit d'édifier la civilisation de l'amour, participer à la civilisation de l'amour. C'est ça notre vocation profonde. Les laïcs ont une vocation extrêmement forte dans le monde. Le rôle du laïc, c'est pas simplement de venir à la messe et de rendre quelques services à la paroisse. Le rôle du laïc, c'est d'être chrétien là où il est dans le monde. Si vous êtes médecin, si vous êtes engagé dans une entreprise, dans n'importe quel engagement, il y a à faire fructifier les dons que l'on reçoit de Dieu à travers ses sacrements. Alors, il était question de parler du baptême et aussi, on avait mis les deux thématiques ensemble, de la confirmation. Alors, vous savez que dans le baptême, vous êtes baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, mais vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous recevez l'Esprit Saint au baptême. Alors, pourquoi la confirmation? Le mot le dit bien, en fait. Il faut être confirmé. On est baptisé, mais il est bon de recevoir. En fait, les dons de Dieu sont inépuisables. Donc, il est bon, à un moment donné, de recevoir à nouveau ce don fondamental qui nous vient de Jésus et qui est l'Esprit de Jésus et de son Père, qui nous communique leur amour. On l'a reçu au moment du baptême, mais le fait de le recevoir à nouveau nous resitue, non seulement par rapport à notre identité chrétienne, mais grâce au don de l'Esprit, grâce à cet amour qui nous est communiqué par rapport à notre mission. Et donc, les confirmés, c'est ceux qui, au fond, disent « Oui, je vais porter cette mission à laquelle m'associe l'Esprit-Saint et qui est la mission du Fils, de l'Esprit-Saint, qui consiste à communiquer à quel point nous sommes infiniment aimés. » C'est assez impressionnant de se dire, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point, quand on regarde Jésus, à quel point on est aimé par le Père? Quand le Père dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour », c'est pour que Jésus nous communique cet amour. Qui me voit, voit le Père. Comment est-ce que Jésus nous conduit à découvrir cet amour du Père? Souvent, on parle du Père en termes « c'est Dieu ». Alors, quand on dit Dieu, on reconnaît celui qui est au-delà de tout, celui qui peut tout, celui qui nous donne tout. Quand on reconnaît en Dieu un Père, ça veut dire qu'on peut lui dire « Abba », il y a une dimension extrêmement intime. On reconnaît à quel point on reçoit tout de lui. On reçoit tout de lui. Et il est bon, vous savez, lors de la messe, on prie le « Notre Père », c'est une prière qu'on connaît. Et le risque de ce qu'on connaît trop bien, de nouveau, c'est de le dire parce que tout le monde le dit. Mais quand on dit « Notre Père qui est aux cieux », est-ce que, quand vous dites « Notre Père », vous vous resituez par rapport à ce Dieu qui est Père? En fait, c'est un mystère inépuisable. Est-ce que vous vous ressourcez dans la paternité divine? « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » En fait, ces mots, on n'aura jamais fini d'en découvrir toute la portée. Et la chance que l'on a à la messe, c'est de pouvoir, à travers la voix des uns et des autres, à travers l'engagement des uns et des autres, de redécouvrir la portée de ces mots. C'est vrai aussi pour le credo, que vous serez aussi amené à professer, non pas à réciter, mais à professer, quand vous allez dire « Je crois en Dieu le Père », eh bien, est-ce que quand vous dites « Je crois », vous posez un acte de foi? C'est une vraie question qu'il est bon de se poser. Ou bien est-ce que je le dis, parce que c'est l'habitude, et parce que c'est comme ça qu'il faut faire à la messe. Est-ce que quand je dis « je crois en Dieu le Père », et puis vous pouvez, est-ce que vraiment vous posez un acte de foi? On ne peut pas être chrétien si on ne pose pas des actes de foi qui nous resituent par rapport à l'amour de Dieu, et cet amour qui ravive en nous l'espérance. Notre monde, ô combien, je crois que chacun d'entre nous en est de plus en plus conscient, a besoin d'espérance. Voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouve demain, tout à l'heure à la messe déjà, et puis demain autour du sacrement du mariage. Donc le mariage comme vocation et mission. Et on parlera principalement du mariage, puis on reprendra aussi les autres vocations. Comment est-ce que ces vocations s'articulent dans l'Église, dans cette communauté qu'est l'Église et qui est le corps du Christ. Voilà, merci de votre attention.